Le sujet qui nous intéresse, c'est que souvent les déchets, ce qu'on considère comme des déchets pour les uns, sont des ressources pour les autres, la plupart du temps. Vous, par exemple, à la COP 5%, qui est une ressourcerie, c'est-à-dire que vous travaillez à réemployer, parce que c'est un peu le terme qu'on emploie justement, pour essayer de revendre des matériaux qui, a priori, sont jetés par les gens.
Bah, c'est ça, c'est le principe même du réemploi, c'est-à-dire que c'est l'idée de donner plutôt que jeter, donner une deuxième vie aux objets, tout simplement, quoi, en fait. Hein. Le concept, d'ailleurs, le concept de la COP 5%, il est né justement du constat, de ce constat d'un consumérisme totalement débridé. On produit, on consomme, on jette. Là, on est dans une économie circulaire, on produit, on consomme, on réemploie. À la COP, on collecte grosso modo 140 tonnes, hein, 140, 150 tonnes, et sur tout ce tonnage, c'est réemployé à hauteur de 70%, quelque chose comme ça. Donc, et puis recycler, tout ce qui n'est pas réemployable est peut-être recyclé. Le bois, les livres, etc., ça peut être recyclé. En déchets ultimes, on a très peu. Donc on préserve en quelque sorte
des
ressources naturelles. Et puis, c'est aussi la possibilité aussi de s'équiper à pas cher, parce que c'est aussi ça le fondement de la COP.
Oui, effectivement, il y a un aspect social très
profit.
Fort.
Enfin, c'est surtout pas de faire du profit, pardon. C'est d'abord et avant tout offrir la possibilité à des gens de s'équiper à pas cher, quoi.
Et c'est un peu le travail qu'effectue Stéphanie Pally dans un autre domaine. Là aussi, on est sur les ressources manufacturées, on va dire, des objets qui sont déjà fabriqués, à qui vous donnez une deuxième vie.
Ouais, alors nous, c'est principalement les matériaux de la construction, surtout du second œuvre. Et en fait, la raison d'être du réemploi en matière de matériaux de construction, c'est d'épargner de la ressource, donc éviter qu'on extrait de nouvelles ressources pour fabriquer de nouveaux matériaux. Et c'est aussi réduire le volume de déchets. Donc en fait, on travaille sur ces deux volets-là. Donc un matériau, principalement matériau du second œuvre, donc les sanitaires, les blocs-portes, du bois, du parquet, ce qu'on peut trouver à l'intérieur d'un bâtiment depuis les années 70, finit systématiquement à la benne. En fait, on n'a pas inventé ça. Hein. On a commencé à retrouver des pratiques qui existaient avant. C'est d'utiliser ces matériaux-là, qui sont des ressources, qui restent des ressources, parce qu'une porte, si elle est remise en état, elle peut rester une porte et être réintégrée sur un chantier de construction. Pareil pour un sanitaire qui peut être reconditionné, remis en état. Pareil pour du bois, des parquets. Donc l'idée, c'est vraiment aussi de présenter ces matériaux-là comme des matériaux de ressources normandes, parce qu'ils ont fait leur première vie en étant des ressources extraites à l'autre bout de la terre, fabriqué à un autre bout de la terre et finalement intégré sur les chantiers sur notre territoire normand. Aujourd'hui, on se retrouve avec des matériaux qui sont normands et qui restent sur notre territoire. Donc l'impact carbone...
Et en préservant les circuits courts, de réemployer sur place, ça veut dire qu'on limite aussi les ressources d'aller expédier des matériaux à l'autre bout de la France.
Avec le sujet du réemploi des matériaux de la construction, on agit vraiment sur ces trois volets-là, la ressource, le déchet et les circuits courts.
Voilà, donc Stéphanie Pally du plateau circulaire. Et alors là, on était dans les produits manufacturés. Et comme on va finir notre tour de table pour présenter nos invités, peut-être Raphaël, ingénieur agricole, vous œuvrez à fabriquer, à concevoir des jardins à vivre et à manger. C'est ça. Alors expliquez-nous un petit peu votre action et comment, avec votre entreprise, vous préservez les ressources et quelles sont les ressources d'ailleurs les plus importantes pour vous.
Alors, effectivement, donc la proposition que je fais, c'est de concevoir le plus possible avec les futurs usagers, que ce soit des particuliers, des entreprises, donc leurs salariés, ou des collectivités avec les habitants ou des membres d'associations. Concevoir le jardin, l'aménager ensemble, soit toujours avec les usagers, parfois avec les services techniques, parfois avec un entrepreneur extérieur aussi. Et puis ensuite, moi, j'anime régulièrement les jardins quand il y a besoin pour transmettre la connaissance et puis un peu le rythme, apporter les fournitures aussi, parce que ce n'est pas toujours facile d'aller acheter pile ce qu'il faut au bon moment, etc. Quand il faut acheter des choses, parce qu'on peut aussi faire beaucoup soi-même au jardin.
Mais c'est ça, on réemploie beaucoup déjà dans les jardins.
Et on peut beaucoup réemployer dans les jardins. Et donc, notamment, les ressources les plus importantes au jardin, ça va être le sol, la terre. Aujourd'hui, tous les sols et toutes les terres sont pollués d'une manière ou d'une autre, pollution aux métaux lourds, pollution chimique, etc. Donc la question, c'est plus trop de se dire, est-ce que je cultive mon jardin, même si potentiellement je suis à côté d'une route, il va être pollué. De toute façon, c'est pollué partout. Donc l'idée, c'est plutôt de se dire qu'en jardinant notre terre, ou une terre qui n'est pas loin, on va aussi participer à améliorer l'activité microbienne, organique, etc. Et que tout ça, c'est des facteurs qui aident à ce que les pollutions disparaissent. Et puis, par ailleurs, essayer d'éviter les pollutions en amont, évidemment. Et donc, autre ressource, il y a l'eau, l'air et puis les semences, qui sont aussi des ressources très importantes au jardin.
Ce qui veut dire que quand on a un jardin bien entretenu avec des intrants naturels, c'est-à-dire des produits qui vont aider à cultiver la terre, elle va être moins gourmande en eau même, par exemple.
Ouais, la matière organique est une vraie éponge à eau. Donc, plus notre terre est riche en matière organique, moins on va avoir à arroser régulièrement et du coup moins le jardin va nous demander de temps aussi à l'entretien quoi.
De temps et surtout d'eau parce que c'est, s'il y a bien une matière et une ressource naturelle à protéger, on le sent de plus en plus en ce moment, c'est bien l'eau.
Ouais.
Et on ne peut pas vivre sans eau. On peut vivre sans manger un certain temps, je dis bien. Par contre, vivre sans boire, c'est absolument impossible.
C'est compliqué. Et du coup, quand on se met à jardiner comme ça avec cette vision aussi de relocaliser un maximum, on va poser des récupérateurs d'eau de pluie qui va être meilleur pour l'arrosage que l'eau du réseau. On va poser des composteurs. Donc les personnes vont pouvoir amener directement leurs déchets compostables, dégradables, légumes, etc., dans les déchets de légumes, dans les composteurs qui vont produire du compost pour arriver au jardin. Donc on boucle les boucles aussi comme ça. Mais on ira peut-être plus dans le détail.
Oui, on rentrera dans le détail au fur et à mesure de l'émission, évidemment. Et puis, puisqu'on boucle la boucle, Marie-Hélène, donc, qui est coordinatrice du projet La Maison, activiste du mieux manger, qui justement travaille beaucoup à préserver les ressources. Et alors les ressources, quand on parle de nourriture, alors effectivement, on peut parler des ressources naturelles qui vont être les animaux. J'en ai un peu parlé tout à l'heure dans l'introduction, parce que ça peut aussi être ça, le gibier, les poissons. Donc, mais aussi, effectivement, comment on préserve les ressources en travaillant peut-être plus en circuit court. Expliquez-nous justement dans la restauration comment ça se passe.
Parce qu'il y a alors beaucoup... nous, effectivement, on sensibilise à l'alimentation durable. À travers des cycles d'ateliers, on fait des visites de producteurs et des ateliers de cuisine. Alors on a défini l'alimentation durable comme une alimentation du coup, qui soit produite localement, mais bio aussi, en fait, sans intrants chimiques ni engrais de toutes sortes, et qui soit le plus en circuit court, effectivement, aussi, et dans une démarche d'anti-gaspillage, de zéro déchet. Donc, en parlant d'alimentation durable, on a évidemment cette conscience qu'on soutient les producteurs locaux qui sont dans cette démarche vertueuse, en fait, de respect de l'environnement et de la santé. Et de la santé, voilà, parce qu'il faut faire aussi le lien, effectivement.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que préserver les ressources, c'est préserver surtout ceux qui, justement, comme Raphaël, alors qui est pas maraîchère, mais qui en tout cas travaille dans les jardins, c'est aussi soutenir ces gens qui vont, eux, préserver directement les ressources naturelles en cultivant mieux.
Oui, et donc les ressources liées à l'alimentation, c'est bien sûr la terre, le sol aussi, l'air et l'eau. Voilà. Donc on souhaite soutenir cette production vertueuse.